Bonsoir à tous. J'espère qu'en chantant ce chant, vous croyez vraiment que le Seigneur vous aime. Je crois que si vous êtes venu dans ce lieu, c'est parce que vous vous doutez que c'est bien vrai ou que vous avez déjà expérimenté cela. Et je voudrais qu'on puisse partager la parole et commencer par un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 25. Proverbes, chapitre 14, verset 25. Il y a de bons versets dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Et ils sont souvent très courts. Pas besoin de lire les chapitres en entier. Certaines fois, une seule phrase nous fait grandement réfléchir. Proverbes 14, 25 dit ceci. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Amen. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. On va lire un psaume que je n'avais pas prévu, mais c'est le psaume 19 qui redit un petit peu la même chose. Psaume 19, verset 8. Ça nous parle de la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Psaume 19, 8, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Amen. » Ce soir, je voudrais que nous puissions écouter, entendre ensemble le témoignage de l'Éternel, le témoignage que Dieu a permis qu'il soit révélé dans sa parole. Vous savez, dans la parole, dans les évangiles en particulier, il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé de Jésus, qui ont dit certaines choses sur le Seigneur Jésus. Et il y a eu beaucoup de faux témoignages. Il y a eu des témoignages qui, il est même rapporté qu'entre eux-mêmes, ils se contredisaient au moment du procès de Jésus. Et nous avons lu ce premier verset qui dit que le trompeur dit des mensonges. Qu'est-ce que c'est le résultat quand quelqu'un apporte un faux témoignage? Qu'est-ce que c'est le résultat? Ben souvent, c'est une fausse condamnation, c'est de l'injustice, et ça peut aller très loin. Quand on connaît la Bible, on connaît par exemple l'histoire de Naboth avec sa vigne. Vous savez, c'était un homme qui avait une vigne qui était sous la fenêtre du roi de l'époque. Et quand le roi se levait le matin, il ouvrait sa fenêtre, ou quelqu'un lui ouvrait pour lui parce qu'il était roi. Et en tout cas, il regardait au travers de la fenêtre et il voyait quelque chose de magnifique, une belle vigne avec des beaux raisins, mais ce n'était pas à lui. Et cet homme était totalement abattu. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que sa femme, qui n'était pas du tout inspirée par Dieu, elle a commencé à payer des témoins pour qu'ils accusent faussement Naboth pour que cet homme soit condamné à mort. Le résultat des fausses accusations de la tromperie, ça a été la mort de Naboth. Et le roi, comme ça, a mis le grappin sur la vigne. Est-ce que la vie de Jésus, c'est pas ce qui s'est passé pour lui dans son procès? Des faux témoignages, même s'ils se contredisaient entre eux, il s'est arrivé à la conclusion finale qu'ils ont condamné à mort Jésus. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Exactement. Mais nous avons lu ce verset, et je voudrais mettre l'accent ce soir sur cela, c'est que le témoin véridique délivre des âmes. Le témoignage que la parole de Dieu nous donne sur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui peut nous délivrer ce soir, qui peut nous amener une véritable liberté spirituelle que seule la parole de Dieu peut nous amener. Dans la parole de Dieu, je le disais, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur le Seigneur. Il a été accusé de toutes sortes de choses, on a fait des reproches. Par exemple, ce reproche que Jésus était l'ami des pécheurs. Luc chapitre 15. Nous allons voir ce soir quelques fois où les hommes ont dit « Cet homme a fait ceci ou cela » en parlant de Jésus et les reproches qu'ils ont dit au Seigneur. Luc chapitre 15, il est question d'un de ces passages justement. Mais l'important, c'est à la fin de savoir qu'est-ce que nous, on va dire sur cet homme, sur Jésus-Christ. Luc 15, verset 1er, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. » Vous connaissez après ces trois paraboles qui sont données par Jésus-Christ. Quel est le but de ces paraboles? Il y a la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, la parabole du fils prodigue. Quel est le but? Le but commun à ces trois paraboles? Eh bien, Jésus l'explique à chaque fois, c'est de montrer la joie qu'il y a dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, je vous pose une question. Est-ce que Jésus était l'ami des pécheurs? Comme il a été surnommé ailleurs, d'ailleurs.
Est-ce qu'il était l'ami des pécheurs? Oui. Est-ce que c'était mal? Non. C'était mal aux yeux des hommes religieux qui avaient fermé leur cœur, qui avaient leur cœur se fermer plutôt par rapport à la lecture de la parole. Dans la loi en particulier, il est dit de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et ces hommes avaient été tellement imbus de religion qu'ils avaient été totalement opaques au sentiment de miséricorde et d'amour. Mais Jésus, lui, il aimait être en compagnie des pécheurs. Il aimait être en compagnie de ceux qui avaient des besoins particuliers, de ceux qui étaient rejetés par les autres. Regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 7. Justement, il y avait un jour un homme, un pharisien, qui a invité Jésus à manger chez lui. Et vous connaissez cette histoire où cet homme, alors qu'il invite Jésus, qui voulait peut-être partager un enseignement avec lui, il voit cette femme pécheresse qui s'approche du Seigneur Jésus. Et au verset 39, le pharisien, il parle dans son cœur. 7:39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, donc cela c'est la femme qui est en train de nettoyer les pieds du Seigneur avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux, le pharisien voyant cela dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Alors est-ce que Jésus était prophète? On va y répondre. Vous avez dit par anticipation, c'est bien. Est-ce que Jésus connaissait de quelle espèce, si on peut reprendre cette expression, même si je ne l'aime pas trop, était cette femme? Est-ce que Jésus savait que cette femme était pécheresse? Et il est dit, plus tard il expliquera qu'elle a commis de nombreux péchés. Mais Jésus le savait. Pourtant, Jésus la laisse faire. Parce que ce qu'elle était en train de faire, c'était de rendre témoignage, de remercier, d'avoir cette action de reconnaissance auprès du Seigneur, parce qu'elle savait qu'auprès de lui, elle pouvait trouver le pardon. Voilà ce qui se passe, c'est que Jésus aime la compagnie des pécheurs, mais Jésus aime la compagnie des pécheurs qui regrettent ce qu'ils ont fait, qui regrettent leurs péchés et qui veulent se séparer de leurs péchés. Jésus n'aime pas la compagnie des pécheurs qui sont rebelles à Dieu, qui refusent d'entendre la loi, qui refusent de se soumettre aux commandements. Jésus aime la compagnie des pécheurs qui ont conscience que ce qu'ils ont fait était mal. Et je reviens à cette question, est-ce que c'est parce que Jésus aimer la compagnie des pécheurs qui n'était pas un prophète? Quand on connaît la parole, et malheureusement les pharisiens connaissaient la parole, mais ils ne l'avaient pas capté, ils n'avaient pas fait attention. Le prophète qui avait été annoncé dès les temps anciens par la bouche de Moïse déjà, il est dit très explicitement ce qu'il ferait. Alors on va voir dans les Actes, chapitre 3, Pierre prend cette parole, cette prophétie, et il explique que c'est Jésus-Christ qui est le prophète tant attendu. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ est le prophète, Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est celui que Dieu avait prévu d'envoyer pour quelque chose de très particulier, qui explique pourquoi il était l'ami des pécheurs. Actes chapitre 3, verset 22. Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Au verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Qui ne veut pas être béni ce soir? Personne. Tout le monde veut être béni. Mais qu'est-ce que nous mettons derrière le mot bénédiction? On met toutes sortes de choses. Alors j'ai noté, pour ceux qui vont bientôt avoir la retraite, une bonne retraite, ça c'est la bénédiction. La santé, peut-être, c'est ça la bénédiction. Trouver une époux, un époux, une épouse, c'est ça la bénédiction. Et est-ce que c'est des bénédictions? Est-ce que c'est des grâces que Dieu veut faire? Bien sûr. Mais quand on voit ce verset, quand on voit ce pourquoi le prophète que Dieu a envoyé a été envoyé par Dieu justement, il a été envoyé pour vous bénir, pour nous bénir. Comment? En nous détournant de nos iniquités. Voilà pourquoi Jésus pouvait être l'ami des pécheurs, parce qu'il avait été envoyé pour aller sauver les pécheurs, pour aller sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est sûr que celui qui sent qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, il n'aimait pas la compagnie de Jésus. Mais Jésus aimait la compagnie, lui, de celui qui se rendait compte de son état et qui voulait être séparé de son péché, être libéré de son esclavage. Jésus était ce prophète qui était venu pour bénir son peuple. Regardez la condition par contre qui nous est demandée à nous si nous voulons vivre ces choses. Au verset 19, juste un peu plus haut, Pierre introduit son discours comme ça. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Voilà notre part à nous. Nous repentir, demander pardon pour notre péché et nous convertir, choisir que Jésus devienne celui qui dirige notre vie jour après jour. Et si nous faisons cela, la promesse, c'est que le péché est effacé. Jésus est-il l'ami des pécheurs? On l'a vu, oui. Est-ce que ça empêche qu'il soit un prophète? Non, ça veut dire que d'autant plus c'est lui le prophète annoncé. On va aller dans Luc chapitre 23, voir quelque chose dont Jésus a été accusé. Et vous voyez bien que un témoignage qui est porté par des personnes qui ont des mauvais motifs, c'est pas quelque chose dans lequel on peut mettre toute notre confiance. Les pharisiens, ils étaient intéressés par le fait que Jésus soit condamné. Ils n'étaient pas neutres dans cette histoire. Parce que Jésus prenait beaucoup de place dans le paysage spirituel du temps d'Israël. Et eux, ils perdaient de plus en plus de place. Donc leur témoignage n'était fait que pour une chose, pour qu'eux puissent retrouver leur place. Donc leur témoignage n'est pas valable. Et pourtant, regardez le verset premier de ce chapitre. On voit justement tout ce qu'ils vont dire par rapport à Jésus. Mais parce qu'on sait ces choses, on sait que leur témoignage, c'est de la tromperie. Verset 1er. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. » Luc chapitre 23, verset 1er. Vous avez vu les trois accusations ? Alors, je vous donne encore des questions ce soir. Est-ce que Jésus excitait les gens à la révolte? Quand on lit les enseignements, le sermon sur la montagne, « Heureux celui qui procure la paix », on se rend bien compte, en étudiant un tout petit peu les enseignements de Jésus, qu'il ne poussait pas les gens à la révolte. Au contraire. Est-ce que Jésus empêchait les gens de payer les impôts? Au contraire. Vous vous souvenez de cette phrase incroyable qu'il a pu dire, qui a fermé la bouche de plusieurs, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Est-ce que Jésus a dit qu'il était le Christ? Mais ça, oui. Mais il a dit en connaissance de cause parce qu'il était vraiment le Christ. Avec les jeunes, il y a peu de temps, si vous vous souvenez bien, on a regardé toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Christ, les prophéties qui se sont accomplies concernant la venue du Christ, la première venue du Christ, dès sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Et on a vu à peu près une quarantaine de prophéties. Et encore, c'est même pas la moitié de toutes les prophéties qui sont renfermées dans l'Ancien Testament qui parlent de ce que Jésus a accompli par sa vie. Jésus est le Christ, et il a pu le dire parce qu'il était vraiment le Christ. Maintenant, si les hommes religieux ont eu ce témoignage-là, il y a d'autres hommes dans ce chapitre qui ont eu un témoignage totalement différent, et ils vont tous s'accorder pour dire la même chose. Pourtant, quand on considère leur arrière-plan, on se rend compte que ces personnes, ce n'étaient pas forcément ceux auprès de qui nous on aurait été demandé ce qu'ils pensaient de Jésus. Pilate. Est-ce que c'est lui que vous seriez allé voir pour avoir un conseil sur Jésus? Ce n'était pas forcément lui. Pilate, au verset 4, il dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » On peut lire à partir du verset 15, même verset 14, hein, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus. Est-ce que vous seriez allé voir Hérode pour demander ce qu'il pense de Jésus? En tout cas, Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Vous imaginez deux hommes politiques. Imaginez aujourd'hui le président de la République et le Premier ministre qui vous parlent de Jésus en disant « Cet homme est totalement juste. » Ça aurait quand même du poids. Surtout qu'ils ont été au contact de Jésus quelque temps, peu de temps, mais ils ont tout de suite reçu ce témoignage dans leur cœur. On va plus loin, verset 40. un brigand sur une croix, est-ce que c'est à lui que vous seriez allé demander si Jésus était juste? Pourtant, ce brigand, sur la croix, il fait quelque chose de remarquable. Vous avez remarqué aujourd'hui, je parlais avec un pasteur des Assemblées de Dieu qui est aumônier également, qui visite les gens dans les prisons, et il me disait souvent, quand tu parles avec les gens, ils sont tous innocents. Tous, ils disent, je suis innocent, c'est pas ma faute si je suis là, j'ai été piégé. Il n'y a aucun coupable dans les prisons, c'est bizarre, hein? Et pourtant, ce malfaiteur qui est sur la croix, en train d'être puni à cause de son crime, il fait quelque chose de particulier. Il ne dit pas « je suis innocent ». Il dit « je suis coupable », mais lui, il est innocent. Vous avez remarqué ce témoignage? Ce brigand, il dit, verset 40, « ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Pilate qui dit « il n'a rien fait de coupable », Hérode qui dit la même chose, ce brigand qui est là quelques heures avec le Seigneur, il dit « cet homme-là, il n'a rien fait de mal ». Nous, oui, on a fait du mal, cet homme-là, non. Verset 47, « un Romain, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « certainement, cet homme était juste ». Alors quel témoignage ce soir nous allons recevoir? Quel témoignage est capable de délivrer notre âme? Celui des pharisiens qui sont là, qui ont peur de perdre leur place dans le domaine spirituel de l'époque d'Israël? Ou le témoignage de tous ces hommes qui ont été touchés par l'exemple de Jésus? Qui ont reconnu que cet homme était juste? Qui ont reconnu que cet homme n'avait jamais péché? Qu'il ne méritait pas de mourir? Et pourtant il était là en train de mourir devant leurs yeux. Quel témoignage allons-nous recevoir? Et si Jésus a accepté, lui qui était juste, pur, sans tache, d'aller jusqu'à la croix, c'est parce qu'il voulait offrir à Dieu le sacrifice parfait pour que justement nous puissions être sauvés de notre péché. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas être sauvés. Et si le prophète devait détourner le peuple de ses iniquités, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Jésus a offert sa propre vie. Hébreux chapitre 9, verset 14, je le lis pour vous. Il nous est dit, justement, ce sacrifice, « combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, il purifiera vos consciences des œuvres mortes. » Le sacrifice de Jésus, c'est son sang pur et innocent qui est offert à notre place pour purifier notre conscience. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont accablés dans leur conscience. Des gens qui ont fait peut-être une chose dans le passé, il y a des années en arrière. Je me souviens d'un homme qui était allé à la guerre, qui avait dû tuer un homme à la guerre, et qui pendant des années et des années, il était omnibulé par cette vision. Il se revoyait en train de tirer sur cet homme pendant une des guerres, et il se rendait compte qu'il avait tué quelqu'un. Et à la guerre, c'est comme ça que ça marche pourtant. Mais cet homme, dans sa conscience, était repris et il était là accablé. Et il y a des choses comme ça qui marquent nos consciences et qui peuvent nous torturer pendant des années et des années. Mais ce verset nous dit que le sang de Jésus, cet homme qui était juste, pur, sans tache aux yeux de Dieu, son sang peut nous purifier dans notre conscience. Voilà pourquoi ce soir nous devons recevoir ce témoignage. Jésus était-il un blasphémateur comme il a été accusé? Ou était-il un homme dont les paroles amenaient la bénédiction dans les vies? Marc chapitre 2 nous dit ces choses, cette accusation horrible quand on connaît le Seigneur Jésus, on peut dire que ça. Accuser le Seigneur Jésus de blasphémer, vous vous rendez compte? C'est comme si on accusait Dieu de blasphémer, c'est un non-sens. Et pourtant des hommes qui étaient là, encore une fois les pharisiens, ont accusé cet homme de blasphémer. Marc chapitre 2, c'est ce moment où il y a ce paralytique qui est amené par ses amis devant Jésus, au travers du toit. Vous imaginez si ce soir il y a quelqu'un qui a enlevé les dalles du faux plafond et qui a amené un paralytique, la scène incroyable que ça serait. Et ces hommes ont eu ce courage-là d'amener ce paralytique au pied du Seigneur Jésus. Et cet homme, Jésus a choisi, avant même de le guérir, il a dit « tes péchés sont pardonnés ». Et parce qu'il a dit cela, c'est ce qu'il est dit au verset 7, « comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Et justement, ils avaient oublié les textes qu'on a lus sur le prophète qui sera amené à détourner les iniquités, les gens de leurs iniquités. Est-ce que Jésus a blasphémé ? Alors, vous allez tous me dire, mais c'est évident que non. Mais je voudrais vous donner la définition du blasphème et vous allez voir. Blasphémer, c'est faire injure à la réputation de Dieu. C'est outrager la réputation de Dieu. Est-ce que Jésus a fait injure à la réputation de Dieu en disant cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, chacun peut avoir son avis, mais moi je préfère lire ce qui est marqué dans la parole. Regardez ce qu'il est dit au verset 12. À l'instant, il se leva, le paralytique, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiait Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Jésus pardonne les péchés, Jésus a commis un miracle à ce moment-là, cet homme est totalement délivré de son handicap, et le résultat, c'est que des hommes sont là en foule en train de glorifier Dieu. Est-ce que Jésus a blasphémé? C'est évident que non. Et ces hommes qui ont accusé, rien que par ce témoignage vécu qu'ils ont eu devant les yeux, ils auraient dû dire « Mais Seigneur, pardonne-nous, on t'a faussement accusé ». Jésus n'est pas quelqu'un qui blasphème, Jésus au contraire est quelqu'un qui par ses paroles communique la vie. À cet homme, il a communiqué une parole et cet homme a été guéri. Quand on voit ce qu'il a commencé à dire, vous savez, le jour où, la première fois qu'il a lu le rouleau dans la synagogue près de chez lui, il a lu ce passage d'Ésaïe 61, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour, etc., amener la bénédiction. » Et il a dit cette parole, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et vous savez comment les gens ont réagi? Les gens de sa famille, les gens de son quartier, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se demandaient comment ça se faisait, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ils se demandaient aussi qu'ils avaient appris tout ça, comment ils pouvaient avoir une telle onction dans les paroles qu'ils disaient. Parce que cet homme n'est pas n'importe qui. Cet homme est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Vous savez cette histoire, on peut la lire dans Jean chapitre 7, même si on la connaît bien. Quand Jésus s'écrit le dernier jour de la fête, il dit une parole incroyable. Et encore aujourd'hui, cette parole est capable de remuer des cœurs. Jean chapitre 7, verset 37, il dit cette parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et regardez au verset 45. Les sacrificateurs et les pharisiens avaient envoyé des soldats pour capturer Jésus pendant la fête, pour permettre que cet homme soit total. On arrête de laisser parler cet homme. Mais au verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Ces hommes qui étaient chargés de le capturer, des soldats habitués à la guerre, habitués à faire toutes sortes de choses. Regardez ce qu'ils ont dit ces personnes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mon ami, ce soir, si tu ouvres ton cœur à la parole du Seigneur, si tu acceptes de recevoir cette parole comme venant de Dieu, tu pourras dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ. Les paroles qu'il a dites, qu'il était celui qui nous permettait d'être abreuvés dans notre cœur. Tant de choses dans ce monde ne nous satisfont pas. Ils sont là, on a l'impression de s'abreuver, on a l'impression de désaltérer notre cœur, mais au final, on se retrouve totalement desséché, totalement sec dans notre cœur. Mais un seul est capable, rien que par ses paroles, de nous abreuver, de nous satisfaire pleinement. C'est le Seigneur Jésus. On revient quelques chapitres en arrière dans Jean, chapitre 4. Des huissiers qui disent que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ceux de sa patrie qui disent qu'il a des paroles de grâce. Les Samaritains même qui étaient les ennemis d'Israël. Ils ne pouvaient pas se supporter. Les Juifs ne supportaient pas les Samaritains. Les Samaritains ne supportaient pas les Juifs. Et pourtant, dans Jean, chapitre 4, verset 29, il y a une femme qui a été touchée par les paroles de Jésus, encore une fois. Il est touché par ce témoignage. Jésus a dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et cette femme a été touchée par ces paroles. Au verset 29, elle va dans la ville et elle dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Et regardez au verset 39.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Par ces paroles, Jésus avait dévoilé son cœur. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Est-ce que c'est bien d'entendre un témoignage qui est arrivé à quelqu'un? Si quelqu'un vient ici, là, sur le pupitre, au pupitre, et qui raconte un témoignage de guérison, une expérience qu'il a fait avec le Seigneur, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous seriez content? Bon, qui veut venir maintenant là? Ben, c'est autre chose. Mais on est d'accord, quand il y a un témoignage qui est donné, on est heureux de l'entendre, de voir comment Dieu agit pour chacun en particulier. Est-ce qu'on n'est pas encore plus heureux quand le témoignage, c'est nous-mêmes qui pouvons le dire? C'est pas seulement on l'écoute de la part de quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes on l'a vécu. C'est ce qui s'est passé, cette femme, elle a partagé son témoignage. Il y a des gens qui ont dit, mais ça a l'air intéressant ton histoire, on va aller voir Jésus. Vous avez remarqué comment ils se sont comportés, les Samaritains? Ils ont prié le Seigneur de rester. Est-ce que nous voulons être de ceux qui prient le Seigneur de rester? Oui, je veux entendre un témoignage de guérison ou de délivrance ou quelque chose. Seigneur m'a instantanément délivré de ceci ou cela, c'est merveilleux. Mais moi, je veux vivre l'expérience. Je ne veux pas me contenter d'entendre le témoignage de mon frère. Merci Seigneur pour mon frère. Mais Seigneur, moi je veux vivre. Je veux goûter à ces paroles qui apportent la vie. Et Seigneur, je te demande de rester dans mon cœur. Je te demande de prendre la place, de prendre cette demeure en moi. Est-ce que votre âme est assoiffée du Seigneur? Est-ce que vous croyez que Jésus a les paroles de la vie éternelle? Est-ce que vous pouvez dire, oui, non, Jésus n'est pas un blasphémateur, mais Jésus, quand il parle, il communique la vie. Quand je lis sa parole, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots en français, c'est compliqué, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans mon cœur. Je sais que mon caractère qui est colérique, qui est nerveux, qui est timide, il est totalement transformé à l'écoute de la parole du Seigneur. Seigneur, j'ai soif de toi. Et je voudrais finir avec ce dernier thème. Jésus est-il un pécheur ou le Fils de Dieu? Jean chapitre 9. Connaissez cette histoire de l'aveugle né? J'aime cette histoire parce que souvent on pense que la maladie provient du péché. Bien sûr, c'est vrai de manière générale. C'est parce que le péché est rentré dans le monde au travers d'Adam et Ève qu'il y a la maladie qui est rentrée aussi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a forcément commis un péché. Et ça, cette histoire est là pour nous le dire. Mais alors que cet homme aveugle-né a rencontré le Seigneur, qu'il a été guéri de façon miraculeuse par Jésus, il a eu ce rendez-vous divin dans sa vie qu'il a marqué pour toujours, vous imaginez? Ça faisait... Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu, cet homme se met à voir. Il devait être content. Et à ce moment-là, au verset 24, il y a des pharisiens qui ont des entretiens avec lui. Et regardez ce qu'ils disent. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu !» Bon, ça c'est bien. « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Ça c'est moins bien. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. » Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Vous avez vu le témoignage d'un côté de ceux qui sont dans la religion, dans la tradition, de ceux qui ne veulent pas sortir de leur carcan religieux. De l'autre côté, quelqu'un qui vient d'expérimenter la guérison miraculeuse. Qui c'est que vous préférez croire? Qui c'est que vous préférez, de qui vous préférez entendre le témoignage? Qui c'est que quelle parole va vous permettre d'être délivré dans vos âmes à votre avis? C'est sûr que celui qui a connu la bénédiction, la guérison miraculeuse du Seigneur, celui-là va pouvoir vous apporter quelque chose. Au verset 31, regardez ce qu'il dit cet homme. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux des aveugles, d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cet homme qui a été guéri a détruit tous les arguments des pharisiens qui étaient là en leur disant « Mais si Jésus a pu me bénir, si Jésus a pu me guérir, c'est parce qu'il venait de Dieu. » Alors que ces hommes étaient en train de dire « Non, c'est un pécheur. »
cet homme qui a goûté le miracle a pu reconnaître que Jésus venait de Dieu. Ce soir, nous avons la possibilité de considérer Jésus, peut-être pas comme un pécheur, mais comme un homme influent, comme un philosophe, ou alors nous avons la possibilité de dire Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je vous invite à lire ce dernier verset dans Actes chapitre 2, verset 22. C'est le moment de la Pentecôte, Pierre est rempli du Saint-Esprit, il fait un sermon à ce moment-là. Le résultat, c'est que 3000 hommes vont se rajouter à l'Église. Mais il leur dit ceci dans son sermon, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Amen. Vous avez vu ce qu'il est dit ? Non seulement il y a l'homme qui a été guéri, qui a été touché, qui a pu rendre témoignage qu'il venait de Dieu, Jésus. Non seulement les hommes à qui Pierre parlait, ils ne pouvaient pas renier, ils avaient au milieu d'eux sûrement des hommes qui avaient été guéris, délivrés, etc. Et ils ne pouvaient pas dire, mais Jésus n'a jamais guéri. Mais en plus, Pierre, il insiste, il dit, Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes. Ce qui nous permet ce soir de dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est non seulement parce qu'on a lu les miracles qui sont répertoriés dans les évangiles, mais c'est parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ont connu des guérisons, qui ont connu des délivrances, qui ont connu des transformations totales de vie, simplement en mettant leur foi en Jésus. C'est le témoignage de Dieu, que Dieu approuve, et combien Dieu approuve quand quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ. Dieu n'approuve pas quand nous mettons notre foi dans une église, dans une dénomination, dans une religion, mais Dieu approuve et déverse sa faveur bienveillante sur quelqu'un qui met sa foi en Jésus. Et Dieu rend témoignage par des miracles et des prodiges. Ce soir, mon ami, est-ce que vous n'avez pas besoin que Dieu, justement, fasse un miracle pour vous ? Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans nos vies où on a besoin d'un miracle de Dieu ? Où on est totalement dépassé ? Où on ne sait plus comment s'en sortir ? Où on a l'impression qu'on est obligé de baisser les bras ? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour dire « Seigneur, j'ai besoin, oui, que tu rendes témoignage par des miracles et des prodiges dans ma vie que Jésus est vivant, que Jésus est ton Fils. Je veux invoquer ton nom dans le nom de Jésus. » Et si vous faites cela, si vous priez avec foi le Seigneur Jésus, mais Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est impossible ? S'il est Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alors il pourra agir pour vous. Il pourra guérir. Il pourra reconstruire quelque chose qui a été totalement dévasté. Cet après-midi, je rappelais encore cette réalité que l'ennemi, le diable, il est venu pour égorger, pour détruire, pour faire des ravages. Et quand on regarde notre monde, on sait que c'est vrai. Mais on sait aussi que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Jésus est venu pour guérir. Et si je prie dans le nom de Jésus, Dieu va rendre témoignage à son Fils en disant « Oui, mon Fils, Jésus est mon Fils, Jésus est le Fils de Dieu, alors je vais exaucer cette prière. » Si je prie avec foi dans le nom du Seigneur. Ce soir, comment allons-nous réagir ? Qu'est-ce que nous allons dire de cet homme qui s'appelle Jésus ? À un moment donné, Pierre, qui était dans un moment de faiblesse, de découragement, il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Vous vous souvenez de ce moment-là, quand il a renié ? Ce soir, on ne veut pas être de ceux qui disent cette parole « Je ne connais pas cet homme ». Bien sûr, il a réglé les choses, on voit comment il a été béni après. Mais on veut être de ceux qui, comme le centenier romain, il a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. On va incliner nos fronts, fermer les yeux. Quel est le témoignage qui va délivrer notre âme ce soir ? Vous vous souvenez de ce verset ? Le témoin véridique délivre les âmes. Cette parole, tous ces témoignages qui concordent pour dire que Jésus est un prophète, l'ami des pécheurs, est-ce que ce n'est pas ça que vous avez besoin d'entendre pour que votre âme soit délivrée ce soir ? Jésus est l'ami du pécheur pour le détourner du péché. C'est sa mission. Jésus a été envoyé et ce prophète qui a été envoyé pour bénir,
le pécheur qui se repent. Ce soir, est-ce que vous n'en avez pas marre peut-être d'être dans la culpabilité ou que les gens vous regardent méchamment parce que vous avez péché? Le Seigneur, lui, vous accueille, mais il vous dit, je veux te détourner de ton péché. Alors repentez-vous et convertissez-vous. Jésus a accompli le sacrifice parfait parce qu'il était parfaitement juste. Même des hommes politiques, des Romains de l'époque ont pu le dire. Jésus a accompli le sacrifice parfait. Et par la foi dans ce sacrifice, nous pouvons être totalement blanchis dans nos consciences, purifiés dans nos consciences. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus n'est pas un blasphémateur. Jésus est celui qui nous communique la vie par sa parole. Qui ce soir veut ouvrir son cœur à cette parole et recevoir cette eau fraîche, cette eau désaltérante qu'il veut vous offrir? Alors oui, dites Seigneur, parle-moi. Grave quelque chose dans mon cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Peut-être que c'est la seule parole que vous avez besoin de retenir. Ne pas considérer Jésus comme un homme comme les autres, qui était charismatique, qui était influent, mais dire Seigneur, oui, tu es le Fils de Dieu, et en ton nom je veux prier, pour que la puissance de Dieu se puisse se manifester. Tu vois le besoin dans mon âme, tu vois ce qui a besoin d'être reconstruit, tu vois ce qui a besoin, ce dont j'ai besoin d'être libéré. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois qu'en priant en ton nom, Dieu va m'exaucer, Dieu va manifester sa puissance. Frères et sœurs, que dites-vous de cet homme, Jésus? Seigneur éternel, nous te bénissons pour le témoignage qui nous est donné dans ta parole. Merci éternel, combien nos cœurs sont réjouis de voir, Seigneur, que tu as permis qu'il y ait non seulement des faux témoignages, mais surtout le vrai témoignage qui peuvent délivrer les âmes, Seigneur. C'est ce témoignage-là que nous voulons retenir ce soir. Et nous comprenons, Seigneur, que ta parole, elle est puissante, elle est inspirée, elle éclaire les yeux, elle rend sage l'ignorance. Tu vois ce soir, celui peut-être qui est ignorant des choses qui te concernent, qu'au travers de ces paroles, tu puisses redonner l'intelligence à son esprit, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre qui tu es vraiment, le Fils de Dieu, celui que tu as envoyé pour délivrer les hommes. Ce soir, Seigneur, nous voulons confesser qui tu es vraiment, le Fils de Dieu. Et Seigneur, nous acceptons, nous déclarons que ton sacrifice est parfait. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Simplement la foi dans ton sacrifice nous apporte le salut. Seigneur, simplement la foi dans ta parole nous apporte la vie. Ce soir, viens manifester ta vie, viens répondre à un besoin en particulier. Montre, oui, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Tu connais, Seigneur, les situations de mes frères et de mes sœurs ce soir. Alors, par ta grâce, interviens et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Amen.